partager des choses. On commence ce matin notre série sur le livre Malachie. Donc, Malachie, comment je dis ? C'est Malachie ? Malachie, Malachie, je sais. D'accord, Malachie. Je sais pas. C'est en hébreu. Après, vous pouvez prendre une marque-page pour vous aider avec Malachie. Il y a une frise. Ouais, on peut distribuer maintenant. Une frise dans un côté avec, pas toutes les dates, mais les dates qui peut nous aider à mettre Malachie dans son propre époque. Et dans l'autre côté, c'est un petit résumé en blanc. Et en rouge, on a survol de Malachie, de grande partie. Voilà, et avant de commencer, j'ai un petit feuille pour les enfants qui restent. J'espère que ça va vous aider à suivre ce que je vais faire. Sinon, vous pouvez me dire après. On va... Oui, merci. Voilà. Que vous avez trouvé Malachie. C'est juste avant Matthieu dans le Nouveau Testament. Et le titre de notre message ce matin, c'est Dieu affronte une religion égocentrique. Dieu affronte une religion égocentrique. Bon. Merci. Le but de cette série est de nous exposer d'une manière systématique et profonde à l'enseignement de cette prophétie afin qu'elle puisse nous enseigner, nous convaincre de nos péchés, nous corriger et nous instruire, n'est-ce pas? Ça, c'est le but des Écritures. Mais avant de nous plonger dans les détails de cette prophétie, je veux ce matin que nous regardions le livre avec une vue aérienne, c'est-à-dire d'en haut. On va faire un survol de cette prophétie. Afin d'avoir un cadre pour bien appliquer son message à nos vies. Et cette vue aérienne consiste en trois parties. Ça, c'est notre plan. La situation historique des destinataires de la prophétie. La mentalité spécifique qui a suscité la prophétie. Et la réponse de Dieu révélée par la prophétie, c'est-à-dire la situation historique, la mentalité des peuples et la réponse de Dieu. Ça, c'est notre plan pour ce matin pour gagner une compréhension globale de cette prophétie. D'accord? Et ça va nous aider dans les semaines qui viennent pour bien appliquer le message et comprendre ce que Malachie veut dire, ou plus précisément ce que Dieu veut dire à travers Malachie. D'accord, notre premier point. Nous allons considérer la situation historique de Malachie. D'accord? Malachie a donné cette prophétie pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette prophétie se situe donc après l'exil des Juifs à Babylone. D'accord? Et vous vous rappelez peut-être que Dieu a puni les Juifs pour leur infidélité en les envoyant en exil, n'est-ce pas? D'accord? Les dix tribus du Nord ont été emmenées en captivité par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. C'est fini pour eux. D'accord? Le royaume du sud a subi l'exil en trois étapes. D'accord? 605 avant Jésus-Christ et après en 597 avant Jésus-Christ et la dernière fois c'était en 586 avant Jésus-Christ. Et leur captivité était sous les Babyloniennes et elle a duré 70 ans. D'accord? Ça, c'est la situation historique. Ils n'étaient pas un peuple qui habitait dans leur pays, dans la paix. Ils étaient en exil, dominés par les autres pays. Donc. Mais dans sa miséricorde et selon sa parole, Dieu a fait revenir en Juda 50 000 juifs du royaume du sud. D'accord? Et ça, c'était vers 538 et 536 avant Jésus-Christ. Même s'ils se trouvaient délivrés de l'exil, ça, c'est une bonne chose, bien sûr. Et même s'ils se trouvaient ramenés dans leur patrie, ces Juifs vivaient une vie dure, vivant sous la domination des Perses, connaissant l'opposition de ceux qui habitaient en Juda, et essayons de construire à nouveau leur vie en Juda. Face à ces épreuves, le peuple perd sa vigueur spirituelle. Ils n'avaient pas la motivation de terminer la construction du temple, ni de refaire les murailles de Jérusalem. Mais Dieu leur a envoyé des prophètes Agée et Zacharie, ça c'est vers 520, je pense, à peu près, qui leur ont reproché leur infidélité et leur ont rappelé des grandes promesses de Dieu en ce qui concerne les Juifs, d'accord? Ils ont venu avec des reproches, bien sûr, mais aussi avec l'encouragement. Dieu est fidèle, il a promis. Convaincus des promesses de Dieu pour eux, ils ont repris le travail et ils ont fini la construction du temple en 516 années avant Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est un peu loin de nous. Mais ça, c'était leur situation historique. D'accord? Ils étaient très découragés dans l'exil. Après, avec la joie, ils sont rétablis dans leur pays. Mais ce n'était pas facile. Ils ont tombé encore une fois dans la déprime. Ils ont perdu leur vigueur spirituelle. Mais avec la venue de Agée et Zacharie, ils étaient encouragés à nouveau. Mais malheureusement, leur conviction que Dieu accomplira ses promesses diminuait. Au fil des années, face au fardeau, ils se sont éloignés de Dieu et de sa loi. Et en réponse, Dieu a envoyé Esdras en 458 ans avant Jésus-Christ, pour leur enseigner la loi de Dieu. Et 13 ans après, Néhémie est venu pour diriger la construction des murs de Jérusalem et pour les ramener à une dévotion pure envers Dieu. Néhémie a rempli la poste de gouverneur deux fois. Son premier mandat a eu lieu entre 445 avant Jésus-Christ jusqu'à 433. Et son deuxième a commencé vers 424 avant Jésus-Christ. Malgré le travail de ces hommes, la situation réelle ne changeait pas vraiment. Les Juifs continuaient à vivre d'une manière contraire à la loi de Dieu. Bon. Maintenant, on arrive à Malachie. Malachie a donné sa prophétie pendant les années où Esdras et Néhémie exerçaient leur ministère. D'accord? Vers 440, quelque chose comme ça. D'accord? Pour résumer, Malachie prêche aux gens qui sont rétablis dans leur patrie, mais qui ont subi l'opposition des habitants du pays et la domination politique des Perses. Malgré les ministères de plusieurs hommes de Dieu et la faveur de Dieu qu'ils ont reçue, nous pouvons décrire leur relation avec Dieu par deux mots. L'indolence et la nonchalance envers le louange de Dieu. Ces deux mots Néhémie, et voilà. Les deux mots, hein. Ça porte des choses. Hein. L'indolence, disposition de se donner le moins de pain possible, à agir avec lenteur et mollesse. D'accord? Je l'ai trouvé quelque part, c'est pas moi. La nonchalance, manière d'être ou d'agir caractérisée par l'absence d'énergie, de zèle, de soin, due à l'insouciance, l'indifférence. Et avant de continuer, vous qui sont mariés, ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein? Pourriez-vous être content si votre mari ou votre femme vous aimait d'une manière indolente ou nonchalante, c'est-à-dire d'une manière d'être caractérisée par l'absence d'énergie, de zèle, de soin, due de l'indifférence. Ou alors, qui veut vivre comme ça? Qui veut vivre comme ça? Mais on va voir que le peuple de Dieu était dans cet état devant Dieu. Indolente et nonchalante. D'accord. Ça, c'est leur situation historique. En exil, rétabli mais sous la domination des Perses, ils passent à travers des temps très difficiles. Ils sont découragés et ils ont perdu leur vigueur spirituelle. Et maintenant, ils sont indolents et nonchalants. Maintenant, on va considérer la mentalité spécifique qui a suscité cette prophétie. C'est une mentalité condamnée. Quand vous lisez ce livre, vous voyez tout de suite que la majorité du livre consiste en des reproches faits aux Juifs. Hein? Dieu les accuse de 6 péchés précis, et ce sera bien si vous les marquez d'une manière ou d'autre dans vos Bibles. D'accord? Au chapitre 1, versets 6 à 14, les sacrificateurs offrent à Dieu des sacrifices impurs. Chapitre 2, versets 10 à 12, les hommes se marient avec des femmes non-juives. Chapitre 2, versets 13 à 16, les hommes divorcent de leurs femmes. Chapitre 2, verset 17. Le peuple accuse Dieu d'injustice. Chapitre 3, verset 6 à 12. Le peuple vole Dieu. Chapitre 3, verset 13 à 15. Le peuple condamne Dieu. Nous allons examiner ces péchés plus en profondeur pendant les semaines qui viennent. Mais ce que je veux faire maintenant est de souligner la mentalité ou l'esprit qui sous-entend ces péchés. D'accord? D'abord, considérez premièrement la mentalité des sacrificateurs. La mentalité des sacrificateurs. Ils sont dénoncés parce qu'ils ont offert des sacrifices impurs à Dieu. Et nous devons poser la question, pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi l'ont-ils fait? Si vous regardez au verset 6, nous trouvons qu'il leur manquait de l'honneur et de la crainte pour Dieu. Et ces deux mots, la crainte et l'honneur, communiquent que les sacrificateurs ne pensaient pas que Dieu était digne de leur respect, que Dieu n'était pas spécial ou important. Selon eux, Dieu ne méritait pas leur révérence. Les sacrificateurs offraient des sacrifices impurs parce que selon eux, Dieu n'est pas digne d'un traitement spécial. Le moindre effort suffirait pour lui. Quelle horreur, hein? Devant le Dieu d'univers, on offre quelque chose d'impur. Si je fais comme ça avec ma femme, elle sera blessée. Et justement. Et nous, si nous recevons des cadeaux qui, franchement, c'était quelque chose abîmé, et on peut voir que c'était... C'est pas cher. Et elle a trouvé, la personne l'a trouvé sur la rue. Ça n'a communiqué. Ça communique beaucoup, n'est-ce pas? Un cadeau comme cela communique. Moi, je m'en fiche. Et c'était les sacrificateurs qui ont fait les cadeaux, les sacrifices comme cela pour lui. Et cette attitude est soulignée au verset 13 du chapitre 1. Ici, là, les sacrificateurs expriment leur mentalité en disant que leur service est fatigant. C'est-à-dire, ils disaient, nous le faisons, mais nous préférons de ne pas faire. C'est fatigant. Cette mentalité révèle qu'ils dédaignaient Dieu. Et le verbe dédaigner au verset 13... Vous voyez ici, et vous le dédaignez, le service de Dieu, ce mot représente une expression très expressive en hébreu. La version d'Arby l'a traduit, vous soufflez dessus. C'est comme s'ils expiraient bruyamment afin de communiquer leur dédain pour le service du Seigneur. C'est-à-dire, oui, le service. Bon, en anglais, on dit « they sniffed at it ». Je ne sais pas en français. Mais ça exprime beaucoup, hein? Le service du Seigneur, c'est fatigant. C'est fatigant. Ils avaient un mépris profond pour Dieu et pour son service. Ils pouvaient donc faire n'importe quoi afin de terminer leur service le plus rapidement et de la façon la moins coûteuse que possible. Voilà. C'est fini, je suis libre maintenant, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est la mentalité en dessous des sacrifices impurs. Ils sont fatigués par le service du Seigneur. Regardez chapitre 2, verset 5. Là, leur mentalité est mise en contraste avec celle de Lévi qui a eu du respect pour Dieu jusqu'au point où il tremblait devant Dieu, sachant que Dieu est puissant et saint. Pour lui, Dieu était si important que l'homme doit s'humilier devant lui et suivre la loi de Dieu soigneusement. Mais pour les descendants de Lévi, Dieu ne mérite qu'un service négligent et superficiel. On n'était pas certainement obligé de se soumettre à sa loi. Dieu ne méritait pas ce niveau de dévouement. Ça, c'est une mentalité qui existait et qui existe aujourd'hui. Il faut faire attention. Selon Malachi, les sacrificateurs avaient une mentalité qui méprisait Dieu et cette mentalité avait pour conséquence un service nonchalant et indolent. Si nous tournons notre attention envers les gens en général, ça c'était les prêtres, hein, les dirigeants. Et on sait, on ne peut pas mettre notre confiance en nos dirigeants, n'est-ce pas? Mais le peuple, nous sommes mieux qu'eux, n'est-ce pas? En général, si nous regardons les gens en général, nous verrons qu'ils ont suivi l'exemple des sacrificateurs. La mentalité des gens en général. Regardez au chapitre 2, versets 10 à 12, où nous apprenons que les Juifs se sont mariés à des femmes qui servaient toujours leur faux Dieu. Ça, c'est le sens d'une fille d'un Dieu étranger, au verset 11. ils continuaient en même temps d'aller au temple de Dieu pour offrir leurs sacrifices. Selon Dieu, hein, ça c'est très ouvert, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ouverts. Mais selon Dieu, en le faisant, ils ont profané, rendu commun le service à Dieu. Pouvons-nous découvrir dans ces versets la mentalité qui sous-entendait leurs actions? Ça, c'est la question. Regardez le verset 10 où Malachi pose deux questions. 10, d'accord. Nous avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ces deux questions révèlent l'enjeu, d'accord? L'enjeu de leur mariage mixte. En s'unissant avec ceux qui n'adoraient pas Dieu, ils montraient leur conviction que Dieu n'est pas unique et qu'ils n'étaient pas vraiment liés à Dieu d'une manière spéciale. Ils n'étaient pas son peuple. Nous sommes comme eux. Nous pouvons nous marier. Leur mariage était donc les actes d'infidélité contre leur père parce qu'ils ont dévalorisé l'alliance établie entre eux et Dieu, selon ces versets. Verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce que aime l'Éternel, et s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Nous voyons qu'ils suivaient l'exemple de leurs dirigeants spirituels. Leur manque de respect pour Dieu, le temple de Dieu et l'alliance avec Dieu se manifestaient dans une mentalité nonchalante et indolente par rapport au mariage. C'est un petit mot. Notre perception du mariage révèle notre perception de Dieu, parce que le mariage vient de Dieu. Le prochain chef d'accusation des Juifs laïcs se trouve au verset 13 à 16. Ils voulaient savoir pourquoi Dieu ne répondait pas à leurs prières. Malachi leur dit que leur infidélité maritale a causé le silence de Dieu. Les hommes juifs ont divorcé leurs femmes, vraisemblablement pour prendre des femmes étrangères qui étaient plus jeunes. Pas certainement. Quelle mentalité se révèle par ce péché? Je pense qu'il y a quatre indices qui nous montrent leur mentalité dans cette situation. D'accord? D'abord, regardez le verset 14, qui nous dit que Dieu était un témoin pour leur alliance. Bon. Ce n'est pas dire qu'il a observé le fait qu'ils se sont mariés, mais qu'il est le Dieu qui bénit, garantit et protège le mariage. En mettant fin à une alliance garantie et protégée par Dieu, il montre qu'il ne faisait aucun cas de la réputation ni du désir de Dieu le témoin. C'est le verset 14. Ensuite, selon le verset 15, en divorçant d'avec leur femme, ils dévalorisaient l'un des buts divins du mariage. Une postérité donnée par Dieu qui soit fidèle à Dieu. En divorçant d'avec leur femme, ils montraient que selon eux, le désir de Dieu n'était pas important. Ils déclaraient que Dieu ne savait rien. Leur bonheur était plus important que la volonté de Dieu. Moi, je veux être content et heureux. C'est Dieu de vivre avec ma famille. Je vais quitter la maison. Dieu, tu ne sais rien. Je sais mieux. Et puis, selon verset 16, ils affirmaient que le divorce est bon malgré le fait que Dieu le haït. Leur mentalité devait être donc que Dieu ne pouvait pas discerner entre le bien et le mal. Mais eux, ils savaient mieux que Dieu. Et finalement, regardez au verset 13. Ces hommes qui divorçaient d'avec leur femme étaient très religieux et ils voulaient que Dieu leur réponde. Il voulait les bénédictions de Dieu sans qu'il leur impose sa volonté. Right? Il voulait franchement que Dieu soit leur béni, lui, un génie qui réalise tous leurs rêves, mais sans imposition de sa volonté. En résumé, ces hommes méprisaient la réputation de Dieu, dévalorisaient le but de Dieu, se considéraient plus sages que Dieu et rabassaient Dieu. Il n'est pas donc étonnant qu'ils agissaient d'une manière nonchalante et ignorante en ce qui concerne leurs alliances avec leurs femmes. Je ne suis pas fidèle à Dieu, je ne peux pas être fidèle à une femme. Bon, le prochain chef d'accusation se trouve au verset 17. D'accord? Rappelez-vous, on est en train de faire un survol, n'est-ce pas? On ne peut pas plonger dans les détails, mais nous voulons avoir un cadre pour bien interpréter et appliquer ce livre. Verset 17 du chapitre 2, où le peuple inculpait Dieu en pensant que Dieu est injuste et qu'il prend plaisir dans le mal. Bon. Au milieu de leur souffrance, ils blâmaient Dieu parce qu'ils voyaient que les malfaiteurs étaient bénis. Ça arrive souvent. Ils déclaraient soit que Dieu n'a pas un sens de la justice si bon que le leur, soit que Dieu n'avait pas le pouvoir de punir l'injustice, soit que Dieu n'a pas la sagesse exigée pour juger au bon moment. Ce n'est pas surprenant donc que des hommes avec une perception aussi indigne de Dieu vivaient d'une manière si nonchalante et indolente en ce qui concerne le service de Dieu. Avons-nous des doutes sur la justice de Dieu? Parce que nous avons des vies qui sont dures, n'est-ce pas? Parfois, des choses arrivent qui ne sont pas justes. Et on est tenté de dire, c'est pas juste! Dieu, qu'est-ce que tu fais? Non. Il faut croire en Dieu. Il ne faut pas mépriser Dieu comme ils ont fait. Le quatrième chef d'accusation contre les juifs laïcs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des sacrificateurs, des prêtres, se trouve au chapitre 3, versets 7 à 12. Dieu leur reproche d'avoir volé des dîmes et ses offrandes. Verset 8. Pourquoi ont-ils volé Dieu? Le verset 10 nous indique que leur vol venait du fait qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils devaient prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu ait la puissance ni l'envie de s'occuper d'eux. Encore une fois, nous voyons que leur péché vient du fait qu'ils méprisaient Dieu. Et cette perception a donné lieu à une mentalité nonchalante et indolente en ce qui concerne leurs offrandes. Le dernier chef d'accusation se trouve au verset 13 à 15 du chapitre 3. Là, Malachie nous dit que les gens disaient que l'obéissance à Dieu ne sert aucun avantage. C'est clair, j'imagine que ces affirmations présentent Dieu d'une manière très mauvaise, n'est-ce pas? Soit il ne peut pas récompenser les fidèles, soit il ne veut pas le faire. Dans les deux cas, Dieu n'est plus un Dieu bon et juste. Avec une estimation comme cela, on ne peut pas vivre autrement qu'une vie nonchalante et indolente. Pour récapituler, hein, les péchés dénoncés par Malachie révèlent l'état d'esprit du peuple. Les dirigeants spirituels considéraient Dieu comme quelqu'un banal et commun qui ne méritait pas leur crainte ni leur respect. Les gens les avaient suivis. Ils se considéraient plus sages que Dieu, plus importants que Dieu et plus fiables que Dieu. Ils se méfiaient de Dieu, croyant que la puissance, la sagesse et la justice lui manquaient. Sans la conviction que Dieu est puissant, bon et sage, ces Juifs ont répondu à leur situation Dieu avec une mentalité qui méprisait Dieu. Leurs attitudes ont produit une vie nonchalante et indolente en ce qui concerne la loi de Dieu et le service de Dieu. Il nous reste maintenant à voir comment Dieu répond à un tel état d'esprit. Hein? Si vous vous trouvez ici ce matin et vous êtes convaincu d'une mentalité comme cela, comment Dieu répond à vous, à moi? La réponse de Dieu. D'abord, notez que Dieu leur rappelle l'alliance qu'il a établie avec leur père. Il leur rappelle l'alliance. Les premiers mots de la prophétie, verset 2, chapitre 1, proclament l'amour de Dieu pour le peuple juif. Je vous avais aimé. Et quand le peuple mettait en cause son amour, Dieu leur rappelle son élection de Jacob, leur père. Il y a 1500 ans, Dieu a choisi entre deux frères, Jacob et Esaü. Il a choisi Jacob en conformité avec l'alliance qu'il a établie avec Abraham. Il a mis son amour sur Jacob et sa postérité comme son peuple particulier, même s'il n'était pas plus méritant que Esaü, selon Romains chapitre 9, verset 13. Grâce à ce choix, dit Malachi, ses bénéficiaires faisaient partie d'une alliance avec Dieu lui-même. Il était leur Dieu et ils étaient son peuple. Cette alliance sous-entend les sacrifices des prêtres mentionnés au chapitre 1. Malachi parle directement d'alliance établie avec Lévi, chapitre 2. Il fait référence à l'alliance aussi au chapitre 2:10 où il parle du fait que Dieu est leur Père et Créateur, celui qui a créé leur nation par l'alliance donnée à travers Moïse. C'est cette alliance qu'ils ont profanée. Et quand Dieu leur donne une promesse de jugement et bénédiction au chapitre 3, il parle du messager d'alliance qui viendra. Cet accent sur l'alliance est appuyé par l'usage du nom Yahvé 21 fois dans la prophétie. Ça, c'est son nom qui signifie l'intimité et le lien qui existe entre Dieu et son peuple grâce à son alliance. L'accent mis sur l'alliance établit le cadre dans lequel les accusations de ce livre doivent être interprétées. Ces accusations ne sont pas l'œuvre d'un Dieu désintéressé qui s'est fâché parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait. C'est l'amour de Dieu qui a suscité cette réponse au peuple de son alliance. Puisqu'il les aime, il doit les reprendre afin de rétablir des relations fortes avec eux. On peut le voir même dans nos vies. Si je n'ai pas l'amour pour quelqu'un, je ne suis pas vraiment motivé de les accuser. Bon, il peut faire ce qu'il veut. Mais si c'est mes enfants, et je vois qu'ils suivent un chemin qui dirige vers la condamnation ou vers le problème, je vais les accuser afin de les rattraper et de garder avec moi, de les mettre sur le chemin qui est droit et juste. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Mais on voit aussi la grandeur de Dieu. Cet accent sur l'amour est accompagné par un accent égal sur la majesté et la grandeur de Dieu. Cette grandeur est soulignée par les noms de Dieu. Il utilise le nom Yahvé, tout-puissant, traduit Dieu des armées, 24 fois dans la prophétie. Il utilise le nom Adonai 4 fois, un nom qui souligne la seigneurie de Dieu. Le nom Elohim apparaît 5 fois, soulignant sa force et sa puissance. Tous ces noms mettent l'accent sur l'essence de Dieu. S'il est vrai que Dieu s'approche d'eux dans l'amour, il est aussi vrai qu'il le fait dans sa majesté. Dieu n'est pas un grand-père doux qui pourrait être ignoré et exploité. Il est le roi de l'univers, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Quand il s'approche, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand il vous accuse, il faut se repentir ou périr, comme il le demande en chapitre 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Et je pense qu'il y a un avertissement pour nous. Ne permettons pas l'amour de Dieu de nous rendre aveugles à sa grandeur. Il nous aime, mais il est toujours le roi, le créateur. Troisièmement, on voit le jugement. C'est un jugement terrifiant. Cet accent sur l'éminence de Dieu rend l'avertissement d'un jugement terrifiant. Regardez chapitre 1, verset 14, où Dieu prononce ces mots effrayants. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Ou regardez au chapitre 2, verset 2 à 3. Dieu avertit les sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai dans des excréments au visage, les excréments des victimes qui vous sacrifiez et vous emportera avec eux. Regardez au chapitre 2, verset 12, où Dieu dit, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Et au chapitre 3, Dieu parle de la purification de l'argent comme une image verbale de la purification par laquelle il fera passer les fils de Lévi. Cette purification implique l'enlèvement des impuretés. Ça, c'est bon, mais comment? Par une chaleur très intense. Cette idée d'une chaleur intense se trouve aussi au chapitre 4, où Malachi parle du jour du Seigneur. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. On peut résumer ces avertissements par la déclaration de Dieu donnée au chapitre 3, verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Quelle terreur de se trouver devant le Dieu Tout-Puissant. Comme on lit en Hébreux chapitre 10, verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Et si nous terminons notre étude ici, nous serons tous découragés. Mais il y a aussi de l'espérance dans ce petit prophétie. Après avoir considéré ces avertissements terrifiants, l'espérance offerte par Dieu brille comme une lumière dans une nuit très noire. Cette espérance est liée à la miséricorde de Dieu qui se révèle dans le passé, le présent et l'avenir. D'accord? Dans le passé, selon chapitre 3, verset 6, le fait qu'ils vivaient toujours est lié au fait que Dieu leur accordait la vie à cause de son immuabilité. C'est-à-dire, car je suis l'Éternel, non, il a dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Un verset plus tard, Dieu annonce un principe général pour le présent. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et si nous voyons la volonté de Dieu de recevoir ceux qui se repentent. ceux qui abandonnent le péché pour s'abandonner à Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on voit aussi que Dieu reste loin de ceux qui ne reviennent pas à lui. Dans l'avenir, selon chapitre 3, versets 16 à 18, Dieu offrira cette espérance à ceux qui le craignent. Ils sont à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Ces versets nous amènent à l'idée d'un jour futur préparé par Dieu pour récompenser ceux qui croient à lui et pour punir ceux qui ne croient pas. Il y a deux passages qui sont très importants qui parlent de ce jour. Le premier passage est Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Là, Malachie parle de quand le jour de l'Éternel arrivera. Avant que ce jour n'arrive, Dieu enverra Élie, le prophète, afin d'accomplir une mission spécifique. Et quelle est cette mission? Verset 6 dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est-à-dire, je pense que ça c'est plus que la réconciliation des familles, quelque chose qui est important. Je pense que Dieu fait référence au retour des Juifs vers la foi de leur père, avec qui Dieu a établi son alliance. Il part de leur repentance. Mais qui est cet Élie? Pour trouver la réponse, bon, je vais vous dire. Luc, il nous a dit que l'ange Gabriel a identifié qui comme cet Élie. Jean le Baptiste. En Luc chapitre 1, verset 16 à 17, il dit de Jean, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Selon l'ange Gabriel, Jean est l'accomplissement de la prophétie trouvée en Malachie chapitre 4, verset 6. Vous voyez l'importance de cette affirmation, n'est-ce pas? Selon Luc, la naissance de Jean a signifié que le jour de Dieu arrivera bientôt. On attend maintenant. Si nous étions là, maintenant, on attend. Élie, il est venu en Jean. Pas en Jean, mais dans l'esprit d'Élie. Il faut demander, Dieu, il va venir quand et comment? Et pour trouver la réponse à cette question, il faut regarder Malachie chapitre 3, verset 1. D'accord? Vous êtes là? Malachie chapitre 3, verset 1. Dieu parle de son messager, c'est Jean, selon lui. On l'a déjà vu. Et il parle du jour où il viendra. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, c'est Jean. Il préparera le chemin devant moi, Dieu. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance, ce n'est pas Jean qui est le messager. C'est un autre messager d'alliance. Que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu arrivera, la purification commencera. Rappelez-vous que Malachie a donné cette prophétie à une génération caractérisée par l'indolence et la nonchalance envers Dieu. Et selon chapitre 3, verset 2, la venue de Dieu ne sera pas un événement joyeux pour eux. Dieu les purifiera par le feu afin de créer un peuple qui présentera à l'Éternel des offrandes avec justice, chapitre 3, verset 3. Mais comment cette transformation se passera-t-elle? On va trouver un autre passage, d'accord? Je vous invite à trouver l'évangile selon Marc, chapitre 1, verset 2, verset 1. On peut commencer là. Au chapitre 1, versets 2 et 3 de l'évangile selon Marc, on commence avec cette phrase. Le commencement de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'accord? Jésus est le sujet de l'évangile. Mais tout de suite, Marc cite des prophètes, n'est-ce pas? Parce qu'il veut prouver ce qu'il a dit. Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et Marc cite, il dit, « Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Ça vous fait penser à quelque chose que vous venez de lire, j'espère. Même s'il dit, je cite Ésaïe, il cite deux prophètes. Ésaïe, mais aussi Malachie. Mais quand il cite Malachie, faire attention. Il dit, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Dans ces versets, Marc cite Malachie 3.1. Mais notez bien la partie où il cite Malachie 3.1. Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Avez-vous noté une différence entre Malachie 3.1 et la citation de Marc? Oui. En Malachie, Dieu dit « mon messager ». Et il dit « mon chemin », le chemin devant moi. Mais ici, Marc, il dit que Malachie parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Il a dit « ton messager, ton chemin ». Quelle est la signification de ce changement? Marc nous dit que Jésus est l'accomplissement de la prophétie de Malachie 3. Le Seigneur qui entre le temple de Malachie 3.1 est égal à Jésus selon Marc. Et Jésus est venu selon Marc chapitre 10 verset 45 pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu la première fois pas pour juger mais pour sauver. Mais il va venir pour juger. Voilà. Comment appliquer cette prophétie à nos vies? Je vous propose plusieurs affirmations qui peuvent nous aider tout au long de cette étude. D'accord? Pour toute l'étude. D'accord? Premièrement, nous pouvons dire que Dieu n'accepte jamais l'adoration nonchalante, détachée et sans conviction. Ça, c'est clair, je pense? C'est clair. Il faut poser la question, chacun à soi-même. Mon cœur est-il nonchalant, détaché, sans conviction envers Dieu? Deuxièmement, nos vies physiques révèlent notre mentalité en ce qui concerne Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous respectons Dieu si nous n'observons pas sa loi. Nos vies, que révèlent-elles de notre état d'esprit envers Dieu? C'est-à-dire, je ne peux pas dire « je t'aime », mais je ne fais rien de ce que tu dis. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ma maison, ça ne marche pas avec Dieu. Troisièmement, une situation difficile ne signifie pas que Dieu a oublié son alliance avec son peuple. Soit si vous êtes vivant avec Malachie, ou si vous vivez à l'époque de Jésus. Vous savez qu'il y avait 400 ans après cette prophétie, avant que Jésus est venu. 400 ans. Ça nous rapporte à l'époque de Louis XIV, je pense. C'est très, très loin. Long. Ça, c'est trois. Quatrième mot. Une attente longue ne signifie pas que la promesse de Dieu ne sera pas accomplie. D'accord? C'est dur d'attendre, je sais. Mais il faut attendre. Et on peut mettre notre confiance en Dieu. Et cinquièmement, Dieu lui-même est la seule espérance pour ceux qui ont besoin d'être purifiés. La naissance de Jésus est l'accomplissement de la prophétie de Malachie en ce qui concerne la venue de Dieu au monde. C'est en Jésus qu'on trouve la purification. Et il faut poser la question, quelle est votre relation avec Jésus? C'est seulement en lui que vous pouvez être purifié devant Dieu. Voilà. Ça, c'est en gros le message de Malachie. Il y avait une situation difficile. Ils avaient une mentalité qui était condamnée parce qu'ils avaient méprisé Dieu. Mais il y a aussi l'espérance. Et l'espérance se trouve à son accomplissement en Jésus-Christ, le Seigneur, qui est venu pour sauver. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette prophétie. Et nous te demandons, premièrement, ta grâce, parce que nous sommes coupables aussi. Tu es digne de plus qu'honneur que nous te donnons. Mais nous prions aussi que tu puisses tourner notre attention envers Jésus-Christ, le seul Sauveur. Amen. Mm-hmm.